La crise économique et sociale que traverse l'Égypte n'est pas née avec la révolution du 25 janvier 2011, que c'est quelque chose de profondément structurel, aggravé par la révolution bien sûr, puisque les touristes ont fui et que c'était la première source de recettes du pays, et puis que les investisseurs, aussi bien égyptiens qu'étrangers, sont partis placer leur argent ailleurs. Donc l'économie est à l'arrêt, les jeunes sont au chômage, il y a donc une frustration énorme à l'égard du pouvoir. Mais le pouvoir n'a fait qu'aggraver une situation préexistante.
Est-ce que l'on attendait trop des frères musulmans, selon vous? On sait que c'était la force la mieux à même d'arriver au pouvoir, la plus organisée. Est-ce que l'on a trop attendu de la confrérie?
C'est sans doute le cas des États-Unis et des pays qui ont désiré l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, non seulement en Égypte, mais dans toute la région, comme le président Obama l'avait clairement exprimé lors d'un discours au Caire en juin 2009. Maintenant, les frères musulmans sont, je dirais, la moins pire des solutions dans la mesure où ils ont une popularité assez large, ils sont représentatifs, ils sont légitimes, ils ont été portés démocratiquement au pouvoir. Maintenant, ils n'ont pas les leviers qui leur permettraient à eux seuls de régler les maux de l'Égypte pour s'insérer sur le marché international dans la mondialisation.
Un mot sur le radicalisme religieux. On sait que la confrérie se laisse parfois déborder par certains salafistes, certains courants salafistes. On l'a vu récemment avec le lynchage de chiites. Est-ce que ce discours de haine n'est pas le premier danger pour la confrérie au pouvoir?
Oui, sans doute, mais les salafistes ne sont pas qu'un élément collatéral, marginal. Ils ont obtenu le quart des suffrages lors des élections législatives. Et donc, ce sont des transfuges des frères musulmans qui rejoignent le mouvement salafiste qui promet la lune, je dirais, sans avoir aucune autre fonction que tribunicienne, aucune compétence en tant que structure pour gouverner le pays. Mais ils sont durablement installés dans le paysage politique. C'est une sorte de populisme islamiste qui prône un retour à l'ordre de Médine, de l'époque du prophète. Mais les frères musulmans étaient déjà sur le déclin, je dirais, lorsqu'ils ont été portés au pouvoir, parce qu'ils ne représentent qu'une moyenne bourgeoisie d'obédience néolibérale qui a des compétences techniques, certainement, qui a une emprise sur la société, mais les jeunes se détachent de ce mouvement qui existe depuis près d'un siècle maintenant.
Est-ce que les frères et Morsi en particulier ont le pouvoir de contrôler ces courants les plus radicaux au risque de se perdre et de perdre le pouvoir tout court?
Le problème des frères musulmans, c'est que l'Arabie saoudite veut leur chute et elle finance abondamment les salafistes pour y parvenir. Elle a peur de la contagion des révolutions arabes, bien sûr, dans le royaume saoudien, en particulier des Égyptiens qui sont près de 2 millions à travailler dans le royaume. Et le pouvoir des frères musulmans en Égypte, il est assez limité parce qu'ils n'ont pas de prise sur l'administration. Ils n'ont pas la mainmise sur la police, sur les services de renseignement, et bien sûr pas du tout sur l'armée avec laquelle un deal a été passé, mais qui contrôle aussi tout dérapage de la situation. Donc les frères musulmans sont en apparence tout puissants. En réalité, ils ont une légitimité démocratique et pas grand-chose d'autre, ce qui est un petit peu paradoxal.
Justement, un mot sur l'armée, Marc Lavergne. Récemment, elle est revenue un petit peu au devant de la scène médiatique dans ce climat de tension. Les Coptes, eux, clairement, ont réaffirmé leur soutien à l'armée. On sent la peur, d'ailleurs, de la minorité chrétienne. Est-ce que l'armée peut sortir des casernes? C'est une question qui se pose depuis un an, mais est-ce que, à ce moment-là, l'armée peut ressortir des casernes malgré l'accord tacite passé avec le gouvernement?
Elle a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans une telle sortie. Elle en est parfaitement consciente. Elle se contente depuis le début, lorsque les États-Unis lui ont demandé de ne pas réprimer la révolution, de chercher à contrôler et à garder ses prébendes. Mais elle se sait parfaitement incapable de résoudre les maux de l'Égypte, encore une fois. Et puis, à minima même, elle n'a pas les compétences pour gérer au quotidien un pays d'une telle complexité et d'une telle masse. Donc elle cherche à rester dans les casernes et à agir par frère musulman ou tout pouvoir qui pourrait lui garantir de maintenir son statut son standard et toutes les propriétés qu'elle possède dans l'économie du pays sans avoir à se mettre en avant. Elle sait que pour elle, ça serait quelque chose de catastrophique.
Est-ce que l'on peut imaginer, face à ces multiples crises, des élections anticipées, le pouvoir peut y être contraint ?
Il peut y être contraint, mais comment ? Est-ce que c'est vraiment la pression de la rue qui peut y parvenir ? Je ne pense pas. Il faudrait que ce soit des pressions internationales. Il faudrait que le président Morsi et les Frères musulmans soient vraiment sortis des clous, c'est-à-dire aient commis des crimes, des massacres, aient bafoué la Constitution, aient bafoué d'une manière significative les droits qui en sont impartis par l'élection au suffrage universel. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Puis d'un autre côté, je pense que les Frères musulmans perdraient la majorité qu'ils ont aujourd'hui au profit des salafistes, au profit peut-être d'un rééquilibrage de la représentation nationale. Pour l'instant, on n'a pas de parlement puisqu'il a été dissous. Donc je ne suis pas sûr que les Frères musulmans aient intérêt à revenir devant les électeurs. Mais tout dépend là aussi du mode de scrutin qui serait retenu. Le précédent est extrêmement compliqué. On n'en est pas là aujourd'hui. Si ça se produit, de toute façon, ça n'apportera pas de réponse aux questions fondamentales qui sont où est l'argent et où est la volonté, où est la conscience des difficultés que le pays traverse, qui sont extrêmement profondes et qui mettront des années et des années, voire des décennies, à être résorbées, c'est-à-dire essentiellement l'éducation de la jeunesse, la santé, la formation, etc.